Nous allons compléter et achever une série portant sur la théologie de la prospérité, une hérésie qui a le vent en poupe en ce moment et qui bouleverse pas mal les perspectives chrétiennes et qui met à mal ceux qui sont en particulier dans la souffrance et dans la maladie et dans l'échec. Je voudrais faire la lecture des versets 28 à 39 pour commencer. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi avec confiance ce matin, avec ce texte tellement riche, avec ces promesses, Seigneur, tellement nombreuses, tellement sûres, avec cette assurance merveilleuse, Seigneur, que tu nous prépares une place dans ta présence pour l'éternité. Te remercions de ce que l'amour de Christ manifesté pour nous à la croix nous est garanti, que rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour, de ton salut, que rien ni personne, ni aucune circonstance ne pourra nous faire déchoir de cette grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour le bonheur de te connaître. Te prions pour que tu nous encourages encore nos cœurs ce matin, que tu fasses du bien à chacun qui est ici, qui peut-être traverse des moments difficiles. Par Jésus-Christ. Amen. Don Carson, un des théologiens qu'on apprécie beaucoup, a écrit dans son livre « Jusques à quand ?» au sujet du mouvement des signes et des miracles, qui est en fait une expression de la théologie de la prospérité. Il a écrit au sujet donc de la théologie de John Wimber, leur théologien. Écoutez cela, John Wimber voit le triomphe du royaume dans la victoire sur la maladie, et il ne comprend pas que la transformation d'un individu au sein de la maladie est également une manifestation triomphale du royaume. Il proclame la puissance de Dieu, mais il n'évoque que rarement la prédilection de Dieu à manifester sa puissance dans la faiblesse. Il prône une foi triomphante, mais le cadre théologique qu'il s'est fixé est trop étroit pour admettre que la meilleure expression de cette foi triomphante est peut-être la persévérance au milieu de douleurs indicibles. Il reconnaît à juste titre que le péché et la souffrance sont intrinsèquement mauvais, mais il n'envisage jamais qu'un Dieu souverain puisse être d'une certaine manière derrière cette souffrance et même l'utiliser parfois comme un instrument de sa discipline. En fait, la théologie de la prospérité a une vue bien trop étroite de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Nous avons besoin d'élargir notre point de vue. Nous avons besoin de l'élargir au dessein de Dieu. Nous avons besoin d'élargir à ses moyens et puis à son secours. Et commençons donc, si vous voulez bien, avec son moyen. Élargissons à ses desseins, à son dessein. Élargissons notre pensée. Quel est son dessein ici dans notre texte ? Selon la théologie de la prospérité, son dessein, c'est notre richesse. C'est notre guérison. C'est notre succès. Et cela, dès aujourd'hui. Gloria Copeland, une de ses prophétesses, dit « Prenez cette décision concernant votre prospérité. La bénédiction divine de la prospérité m'appartient. » Dites-vous ça. « Je vais la recevoir. Les symptômes de manque n'ont aucun droit d'agir contre moi. Prenez cette décision et vous commencerez à profiter des bénédictions financières qui vous appartiennent depuis le jour où vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ. » Benin écrit « Je crois que la volonté de Dieu n'est pas seulement que vous soyez guéri, mais il veut aussi que vous soyez en bonne santé jusqu'à ce qu'il vous rappelle. » Robert Hilton, un autre de ses prophètes, « Le succès est disponible ici et maintenant. Il dépend de vous de venir et de le recevoir. Si vous n'avez pas de succès, c'est votre faute et non celle de Dieu. Vous déterminez votre niveau de succès. Vous faites le choix. Dieu a placé la balle dans votre camp. C'est vous qui donnez le mouvement. » Fin de citation. Donc, la seule expression de la volonté de Dieu, selon eux, c'est la richesse matérielle, la santé et le succès, et cela dès maintenant. Mais dans notre texte, nous voyons un dessein bien plus grand. Verset 28, il dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Son dessein bien plus grand, c'est notre bien. Le problème, c'est que on a une mauvaise compréhension de ce que c'est que notre bien. Si je vous demandais à chacun d'écrire sur une feuille de papier ce qu'est votre bien, qu'écririez-vous ? Certains diraient « Oh, moi, une augmentation. » Par les temps qui courent, ça. Quelqu'un dirait « Moi, c'est un job, simplement. » Quelqu'un dirait « Moi, je veux un mari. » Ou une épouse, des enfants. Moi, je veux une belle maison. Ou moi, je veux la santé pour moi, ou la santé pour un de mes proches. Voilà mon bien. D'autres diront, mon bien, c'est la réussite aux examens. C'est le bac. C'est le succès dans mes entreprises. Si c'est ce que vous jugez être votre bien, alors vous êtes adepte, peut-être sans le savoir, de la théologie de la prospérité. Vos prières ressemblent à celle-ci. « Oh Seigneur, bénis-moi, accorde-moi ce job, cette promotion, cette guérison, accorde-moi cette belle jeune femme. » Votre Dieu est comme celui d'Aladin, c'est le génie de la lampe. La machine à bénédiction, un Dieu que vous contrôlez, un Dieu qui est là pour accomplir votre volonté, qui accomplit votre dessein. Mais le Dieu de la Bible a une volonté propre. Le Dieu de la Bible a un dessein particulier. Le Dieu de la Bible opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et il dit, c'est un peu peu ce que tu demandes sur ton papier. C'est vraiment minus. J'ai l'intention de te donner bien plus que cela. D'élargir ta vision du dessein de Dieu. Tu recherches en fait ton bien-être. Mais moi je poursuis ton bien. Et je poursuis ton bien même quand ton bien est en conflit avec ton bien-être. Regardez par exemple en Hébreux 12, au verset 10, il est dit « Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Vous imaginez ça ? Notre bien, c'est de participer à sa sainteté. Et Dieu, pour cela, il va jusqu'à nous châtier, à nous corriger. Dans le psaume 119, le verset 71, c'est un verset qui m'a fait énormément de bien un jour. Et il dit, « Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. » Il est bon, il m'est bon que je sois humilié afin que j'apprenne tes statuts. Qui aime ça? Qui recherche ça? Qui pourrait dire ça, c'est pour mon bien-être d'être humilié? Personne n'aime ça. C'est insupportable. Dieu poursuit-il notre bien ou notre bien-être? Un jour, Dieu est apparu à Salomon. Il était jeune roi, il venait de monter sur le trône de son père David. Et Dieu lui apparaît et lui dit en 1 Roi, chapitre 3, verset 5, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Vous imaginez la chose? Il lui fait le coup de la feuille de papier, là. « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et la Bible dit que la réponse de Salomon a été la suivante. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Il dit ici clairement, « Donne-moi un cœur comme le tien. Car qui peut juger ton peuple? Donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse pour que je puisse discerner les choses les meilleures pour ton peuple. » Et Dieu a aimé cette réponse, cette demande de Salomon plutôt au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Je te donne un cœur intelligent et sage. Et en plus, cerise sur le gâteau, je te donne tout ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la gloire et une bonne santé. Notre bien, c'est un cœur intelligent. Ce n'est pas un QI. C'est un cœur intelligent. Un cœur pour discerner ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, notre bien suprême, c'est d'être, verset 29, semblable à Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà ce que Dieu recherche dans notre vie. Être semblable à Jésus-Christ. Ça, c'est le dessein de Dieu. Je sais que Dieu m'aime, parce qu'il envisage pour moi ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus glorieux, de plus durable. Être semblable à Christ. Et son dessein, il va l'accomplir. Et c'est cela qui est merveilleux. Son dessein, c'est que des pécheurs impies soient un jour transformés à l'image de Jésus-Christ par la foi en lui. Paul nous présente l'ensemble du dessein divin. Verset 30, il dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Tout d'abord, Dieu nous a connus d'avance, de toute éternité. Il ne s'agissait pas d'une simple connaissance intellectuelle, hein, car il connaissait chacun de ceux qui allaient naître, mais il connaissait intimement, il connaissait étroitement tous ceux qui allaient devenir les héritiers de sa grâce, ceux qu'il s'est choisis. Quiconque a été prédestiné de toute éternité est aussi appelé à un moment donné. Ça signifie que non seulement il entend l'appel de l'Évangile, mais aussi qu'il y répond favorablement. En fait, il s'agit d'un appel qui produit l'effet voulu. C'est ce que les théologiens ont appelé l'appel efficace. Tous sont appelés, et ça c'est un appel général, tout à fait valide. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y a un appel général au monde entier. Et c'est cet appel-là que nous lançons, nous aussi, à venir à Jésus-Christ, à tout le monde. Mais seuls quelques-uns y répondent. Ce sont ceux qui ont reçu l'appel efficace de Dieu qui produit la conversion. Tous ceux qui y répondent sont aussi justifiés, déclarés parfaitement justes devant Dieu. Ils sont revêtus de la justice de Dieu grâce au mérite de Christ. Ils sont par suite aptes à se tenir en la présence du Seigneur. Ceux qui sont justifiés, la Bible dit ici, qui sont aussi glorifiés. En réalité, nous ne sommes pas encore glorifiés, mais cela est tellement certain que Dieu peut en parler en se servant du verbe au passé. Nous sommes aussi certains de cet état glorieux que si nous l'avions déjà reçu. Son dessein est grandiose et son dessein, il l'accomplira. Il l'a pensé de toute éternité passée et il l'accomplira et l'achèvera parfaitement dans l'éternité à venir. C'est cela qui est merveilleux. C'est cela qui nous donne beaucoup d'assurance ici-bas. Nous voyons ici son dessein. Maintenant, nous voyons ses moyens. Il nous faut élargir notre pensée quant aux moyens que Dieu emploie pour y parvenir. Pour la théologie de la prospérité, les moyens que Dieu a donnés, c'est la parole de foi, c'est de proclamer et de posséder les choses. Écoutez ça, encore quelques citations de Gloria Copeland, de Frederick Price et de Robert Hilton. Ils disent « Dieu ne va pas outrepasser votre autorité. Il vous a donné l'autorité sur la terre. Il vous laissera mourir malade si vous choisissez de le faire. Dieu ne vous arrêtera pas. » Et voilà alors les moyens. Il a donné une parole de foi et on doit crier très fort et on possède la chose. On doit convaincre Dieu. Quelle erreur. Ils disent encore, Dieu ne peut rien faire sur cette terre si nous ne lui donnons pas la permission par la prière. Imaginez ça. Qui est Dieu là dans cette affaire? Quand vous commencez à croire quelque chose, ça c'est Robert Hilton qui dit ça, quand vous commencez à croire quelque chose, Dieu commence à y croire. Et des choses arrivent, gloire à Dieu. Vous voyez la chose? Non, ces moyens ne sont pas ceux-là. Son moyen, c'est bien sûr la croix de Jésus-Christ, par lequel nous venons à la connaissance du salut. Ses moyens, c'est toute chose. Il est dit ici, toute chose. Nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien entendu, il travaille avec la Bible quand elle est prêchée, avec le Saint-Esprit, avec l'Église, avec des circonstances favorables, avec des choses bonnes, entre guillemets, mais aussi, et c'est ce qui est plus difficile à accepter, Dieu accomplit son dessein avec des choses mauvaises. Avec des choses mauvaises. C'est cela qui est difficile à comprendre, et pourtant elles font partie, elles sont comprises dans toutes choses. Dieu est tellement grand qu'il peut travailler avec des choses mauvaises comme la maladie, comme la persécution, comme des catastrophes, comme le péché. Il les fait concourir à notre bien. Ce qui fait que pour l'enfant de Dieu, les plus grandes difficultés perdent leur côté destructeur parce qu'elles servent à sa transformation à l'image de Christ. Notre vie n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, la chance ou la fatalité et n'est pas contrôlée par les démons ou par Satan, mais par notre Seigneur merveilleux et personnel qui est trop aimant pour se montrer cruel et trop sage pour se tromper. Ainsi, les souffrances que nous pouvons connaître, les échecs, ont une utilité dans notre vie. Quelle utilité ? Rapidement, on pourrait citer le salut de beaucoup. Pensez à Paul et Silas, ils ont été emprisonnés à Philippe. Ils ont été roués de coups. On leur a mis les ceps aux pieds, pièces de bois qui les maintiennent dans des grandes souffrances. Et au milieu de la nuit, il loue Dieu. Puis un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent. Et le geôlier, pensant que tous les prisonniers se sont évadés et prêts à se donner la mort, ils lui disent « Non, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. » Il dit « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Et il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Les souffrances de l'apôtre Paul, de Silas, ont été pour le salut de ce geôlier, mais aussi de toute sa famille, pour l'implantation de l'Église du Seigneur à Philippe. Joseph a été un autre exemple extraordinaire. Il a été rejeté par ses frères. Il a été abandonné à une caravane. Il a été revendu comme esclave. Et puis il a été jeté en prison, et puis il a été abandonné. Et puis Dieu l'a fait sortir de prison, et puis il l'a installé sur le trône, à la tête de l'Égypte, pour sauver l'Égypte, pour sauver sa famille, pour sauver sa propre vie, pour sauver les nations autour qui sont venues se nourrir en Égypte. Oui, nos souffrances, nos échecs, nos difficultés sont aussi des instruments de Dieu pour le salut de beaucoup, mais aussi pour la formation de notre caractère. La patience s'apprend dans la souffrance, dans la difficulté. La discipline. Imaginez que je sois pauvre parce que je suis paresseux. Croyez-vous que Dieu va me rendre riche l'instant où je vais décider que la bénédiction de la prospérité m'appartient ? Non. Il va me laisser pauvre jusqu'à ce que je saisisse la leçon qu'il veut m'enseigner, de travailler, parce que mon Seigneur aussi a travaillé. Parce que Dieu nous secourt dans notre faiblesse, mais pas dans notre paresse. Oui, ça nous instruit sur la discipline de vie. Ça change notre caractère, ça nous pousse à prier. Qui d'entre vous prierait si tout allait bien ? C'est quand nous sommes dans la souffrance, c'est quand nous sommes dans la difficulté, c'est quand nous sommes dans une situation d'échec, de crainte, de peur, que nous venons devant Dieu et que nous cherchons refuge en lui. C'est là que nous nous intercédons, c'est là que nous rencontrons notre Dieu. Et Dieu permet ces souffrances-là, ces difficultés-là, pour qu'on puisse le rencontrer. Il transforme aussi notre caractère en suscitant dans nos cœurs de la compassion envers les autres. On n'a jamais de compassion jusqu'au jour où on a souffert soi-même. Et puis là, on commence à ouvrir de grands yeux sur les souffrances des autres. Notre cœur s'élargit pour embrasser la souffrance des autres, pour tenter de la soulager, en tout cas d'y compatir. Les souffrances, les difficultés nous poussent à développer notre confiance en Dieu. Lorsque la moindre chose est une impossibilité pour nous, alors on vient se réfugier en Dieu et on lui demande, « Seigneur, je te fais confiance. Si telle est ta volonté, tu me permettras d'accomplir ceci ou cela. » Dieu, aussi dans nos souffrances, rééquilibre nos priorités. Dieu, dans la souffrance, nous apprend l'humilité, la joie véritable, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de Dieu. Dieu nous enseigne la persévérance, mais aussi la douceur. Puis Dieu, au travers des difficultés, nous instruit sur comment consoler les autres. Si nous souffrons d'une certaine manière, nous viendrons chercher consolation auprès de ceux qui ont souffert des mêmes épreuves et qui ont trouvé la consolation auprès de Dieu. Et puis, les épreuves, les difficultés permettent le sevrage de nos cœurs quant au monde et au péché. On commence à voir alors ce qui est important. Vous savez, quand on commence à vieillir, qu'on a un petit peu mal partout, qu'on voit la fin s'approcher, oh, les ambitions de ce monde. Le qu'en dira-t-on ? Mon père dit, moi, maintenant j'ai passé 70 ans, j'aime bien être dans des vêtements où je suis bien juste. Dans des chemises, voilà, que j'ai mis pendant 10 ans, elles sont plus douces. J'ai plus besoin de plaire à un patron, je suis bien comme ça. L'ambition, toutes ces choses-là disparaissent. Le péché disparaît. Et puis, les difficultés sont aussi l'occasion de glorifier Dieu et de montrer qu'il est meilleur que tout le reste. J'ai lu ce témoignage d'une certaine Hélène, une érythréenne. Elle a écrit son témoignage qui s'intitule « Le chant du rossignol ». C'est une jeune femme chrétienne qui aimait chanter, qui aimait louer le Seigneur et puis qui a commencé à faire des études bibliques. Et puis elle a été arrêtée, elle a été jetée dans un conteneur au milieu du désert. Dans le désert, les nuits étaient glaciales, les journées étaient étouffantes dans cette coque de métal. Mais elle a toujours continué à chanter. Chaque jour, on venait la trouver en lui disant, écoute, tu peux sortir libre, tu as juste à abandonner, à renier ton Seigneur et à ne promettre de ne plus jamais retourner dans l'église ou de ne plus vouloir annoncer ton évangile. Arrête juste. Elle a dit non. Je préfère le conteneur et louer mon Seigneur. Et elle a continué à louer son Seigneur. Pourquoi elle a appelé son livre « Le chant du rossignol » ? Parce que le rossignol, c'est un de ces rares oiseaux qui chantent la nuit, qui chantent quand il n'y a plus de lumière, quand tout est obscur, quand on ne voit rien, il chante quand même. Le chrétien, lui, quand il a quand il est dans l'épreuve, quand il est dans la souffrance, il peut chanter quand même. Et ça, c'est ce qui glorifie le plus le Seigneur. Parce qu'il montre au travers de son chant, de sa louange au Seigneur, que Dieu vaut mieux. Mieux qu'une bonne santé, mieux que le succès, mieux que la liberté, mieux que la famille, mieux que les enfants, mieux que l'argent, mieux que la réussite. Dieu vaut mieux que tout cela. Et c'est notre manière de pouvoir le célébrer. Est-ce que vous comprenez que la théologie de la prospérité s'attache à la cerise et qu'elle délaisse le gâteau? Elle montre ainsi sa théologie de misère en réalité. Et puis, enfin, nous avons besoin d'élargir notre vision quant à son secours. La théologie de la prospérité n'envisage jamais Dieu comme un refuge dans la détresse, mais comme un magicien qui transforme chaque situation difficile en triomphe. C'est certain, à cause de notre faiblesse, de notre nature charnelle, à cause de notre compréhension limitée des plans du Seigneur, de ses voies, nous serons sujets au péché, au découragement, nous serons sujets à la tentation, à la détresse. Nous aurons alors besoin de son pardon, de son soutien, de sa grâce, de sa patience. Il a promis de nous donner toutes choses avec Jésus-Christ. Verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Toutes choses. Si Dieu nous a déjà donné le plus grand don, nous refusera-t-il un seul don plus petit ? S'il a déjà payé le prix le plus élevé, hésitera-t-il un seul instant à payer un prix inférieur? S'il est allé aussi loin pour nous procurer le salut, peut-il nous abandonner? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Toute chose ne désigne pas ici les biens matériels, mais tout ce dont nous aurons besoin pour parfaire notre salut jusqu'au jour de notre glorification. Ce n'est pas une promesse d'échapper rapidement aux gémissements auxquels l'univers entier est soumis, mais de pouvoir traverser la souffrance. C'est la promesse qu'aucune situation n'échappe au contrôle de Dieu, mais qu'elle sert son glorieux dessein de nous transformer à sa ressemblance. La théologie de la prospérité n'envisage pas la souffrance, la pauvreté ou la maladie comme des instruments au service de Dieu pour notre bien. Elles ne sont que des intrusions intempestives, des suppôts de Satan qu'il faut chasser par la foi. Et toutes les grandes réunions de la théologie de prospérité commencent par chasser les démons, par des soi-disant guérisons. John Wimber a dit qu'il avait 2% de réussite dans ces domaines-là. C'est le meilleur. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas envisager que Dieu ait une autre méthode pour accomplir son plan merveilleux. L'Évangile, lui, nous pousse à nous soumettre à Dieu et à rechercher son secours. Si mon enfant tombe, si elle se décourage, si elle a peur, si elle vient dans mes bras, elle veut trouver simplement un père qui l'aime et un câlin. Elle veut trouver du réconfort. Je crois que dans les Écritures, tous ceux qui ont souffert ont eu cette opportunité de se tourner vers le Seigneur et de trouver le réconfort dont ils ont besoin. De retrouver le secours dont ils ont besoin. Je pense à plusieurs psaumes le psaume 27, c'est un psaume de David. Il est dit, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Au verset 4, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » David, il imagine, voilà, il y a des souffrances, mais moi je peux toujours venir trouver secours, me réfugier dans les bras de mon Dieu. Dans le psaume 34, le même David dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Verset 9, il dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » C'est-à-dire qu'on a besoin de regarder à Dieu comme d'un refuge, pas simplement de celui qui va changer nos circonstances, mais celui qui nous accueille, qui nous reçoit, un ami qui peut nous comprendre, qui partage notre détresse, qui l'a saisi à cause de son caractère d'homme. C'est aussi la souffrance qui nous donne cette intimité avec Dieu. L'expérience de tous ceux qui ont souffert, c'est celle-là. Ils disent, j'ai rencontré Dieu dans mes difficultés. C'est quand plus rien n'allait que j'ai cherché Dieu de tout mon cœur et je l'ai trouvé. Ma situation n'a peut-être pas changé, mais moi j'ai trouvé Dieu, j'ai changé mon regard sur ma situation. Il a changé ma vision des choses. C'est l'expérience de Job. Job avait tout perdu, tout. Tout ce qu'on peut perdre, il l'avait perdu. Et à la fin, Dieu se révèle à lui. Oh, il avait dit, si seulement je savais où il est, j'ai deux mots à lui dire. Et c'est Dieu qui est venu. Et c'est Dieu qui a parlé. Et c'est Job qui s'est tu. Et il a été bouleversé par la rencontre qu'il a faite avec Dieu. Il a compris Dieu dans sa grandeur. Il a compris un peu Dieu dans sa bonté, dans sa sagesse, dans son amour. Et il a dit, oh, autrefois mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Si vous aviez interrogé Job à cet instant précis, et que vous lui auriez demandé, est-ce que Job, tu voudrais que toutes ces années de souffrance ne soient jamais arrivées ? Il a dit non. Non. Oh non ! Parce que j'ai rencontré Dieu. J'ai trouvé son secours. J'ai trouvé la paix pour mon âme. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Un handicapé américain a écrit un poème qui a été gravé sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York. Il s'appelle Hans Viscardi. Écoutez ce qu'il a dit. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Et il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes et il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul, mais il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes les plus richement comblés. Voilà ce qu'il a pu dire. Bouleversant. Bouleversant. Toute l'aspiration de son âme a été satisfaite. Parce qu'il est allé trouver secours en Dieu. On sait que la situation de Job a changé. Qu'il a eu des enfants, qu'il a retrouvé la richesse, que sa femme est revenue, qu'il a retrouvé la santé. Mais rien n'a changé pour Hans Viscardi. Rien n'a changé et pourtant, tout a changé. Parce qu'il a vu Dieu, il l'a rencontré. Peut-être vous traversez des moments difficiles, des difficultés. C'est légitime de vouloir y échapper, s'en sortir, trouver un travail ou retrouver de la santé, trouver une compagne, avoir des enfants. Tout cela, toutes ces choses sont légitimes. Mais ce n'est pas là notre bien. Notre bien est bien plus grand que ça. Notre bien, c'est être conforme à Christ. Et Dieu va utiliser toutes choses, les bonnes, bien entendu, celles qu'on appelle mauvaises et qui pourtant sont les moyens de Dieu pour accomplir son dessein merveilleux. Dans l'éternité, aucun d'entre nous ne dira « Ah ben, dis donc, si, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas empêché de connaître cette situation? Pourquoi tu ne m'as pas évité cela ?» Non, personne ne tiendra ce langage à Dieu. Nous comprendrons, nous verrons qu'il a réalisé son plan dans notre vie, dans notre cœur. Dans la nuit la plus noire de l'âme, les chrétiens ont un appui que Job n'avait jamais connu. Je voudrais juste terminer avec cela. Job n'avait pas Christ crucifié. Nous les chrétiens, nous savons que lorsque plus rien ne semble parler de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que dans nos circonstances, rien ne nous est favorable. Peut-être rien n'est bon. Eh bien, nous pouvons encore nous souvenir de ce que nous sommes aimés parfaitement et que la preuve a été faite de cet amour à la croix du calvaire, là où Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, Dieu nous a laissé son Fils. Et le témoignage qui est rendu par Christ à la croix pour nos péchés, c'est le témoignage de son amour. Et si dans votre vie, les difficultés sont là, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes de santé, vous avez toujours le témoignage de Jésus-Christ crucifié qui dit « Je t'aime d'un amour infini. Je te conserve ma bonté. Je t'aime et je suis en train d'accomplir pour toi, dans ta vie, un plan extraordinaire, une conformité au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Je suis en train de changer ton cœur, de transformer ton être au plus profond. Je suis en train d'accomplir une œuvre d'orfèvre. » Et c'est cela qui nous est raconté dans ces versets. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il élargisse notre compréhension du dessein de Dieu, de ses moyens qu'il déploie pour l'atteindre, et qu'il élargisse aussi notre cœur au secours qu'il nous offre en Jésus-Christ. Amen.